n'est pas se répéter. Ce que j'ai dit antérieurement prend son sens après. Le travail d'élaboration doit en passer par les mêmes sillons pour arriver à creuser une ornière qui indique une direction, un sens. Ce sens n'est pas celui que donnerait l'enseignement universitaire qui dirait ce qu'est l'amour, la jouissance, etc. Il attend que le sens de son enseignement ait des effets d'écrit et de réel, c'est-à-dire de déplacement de discours. Qu'est-ce que je peux avoir à vous dire encore depuis le temps que cela dure et que cela n'a pas tous les effets que j'en voudrais, dit-il au début de cette leçon. Et il poursuit que, comme il en a déjà beaucoup dit, il est réduit à cet étroit cheminement qui fait qu'à chaque instant, il faut qu'il se garde de reglisser dans ce qui déjà se trouve fait de ce qui s'est dit. Il ne s'agit pas de ne pas glisser dans ce qu'il a déjà dit, mais dans ce qui est déjà fait. Cette connotation matérielle du fait indique le chemin parcouru, frayé par Lacan, qui s'est écrit dans le discours analytique à partir de ces dits. Dans la première leçon, Lacan avait dit que l'amour faisait signe et qu'il était toujours réciproque. Il était question là, comme l'a fait valoir Agnès Wilhelm, de l'amour sur son versant narcissique. Tant Freud que Lacan ont toujours mis l'accent sur le caractère narcissique inhérent à l'amour. Dans la leçon que nous commentons, il réaffirme le versant narcissique de l'amour qui n'a jamais fait sortir quiconque de soi-même et il pose la question « comment il peut y avoir un amour pour un autre ?» Ce qu'il y a de nouveau dans ce passage est que Lacan, il me semble, tente de désarimer l'amour de son essence narcissique et qu'il cherche par quelle voie peut s'opérer une ouverture vers l'autre, vers l'altérité. Ici, ce n'est plus l'amour qui fait signe, mais l'amour vise le signe d'un sujet et permet la rencontre. Dans l'amour, ce qui est visé, c'est le sujet. L'amour est un affect du sujet qui découle de la nécessité structurelle du fait qu'il y a le signifiant, le langage, qui demande complétude là où il y a manque à avoir, là où est le manque à être. De l'amour, on ne peut pas en parler, il n'a pas de sens. C'est pourquoi Lacan ne dit pas ce qu'est l'amour, mais ce qu'il vise. Il vise le sujet. Première difficulté. Au début de cette même leçon, Lacan vient de dire que l'amour visait l'être. Viser l'être, est-ce la même chose que viser le sujet? L'amour vise l'être de l'autre, car sa visée, contrairement au désir qui cherche la satisfaction, est une demande de réalisation d'être. Le sujet espère que l'amour viendra combler cette part perdue qui lui a été soustraite par le langage. Mais l'être est ce qui, dans le langage, se dérobe le plus, il est ce qui fuit, il est là où il est le moins signifiant des signifiants, à savoir la coupure. L'amour vise l'être de l'autre et ne peut que le rater. C'est cette absence d'être du sujet qui fonde la dualité du sujet et de son être. L'amour ne peut, en visant l'être, rencontrer l'autre. Mais il le peut-être en visant le sujet. Et là, il y a la difficulté, mais bon, on en discutera après entre viser l'amour, viser le sujet et viser l'être. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. Le sujet, c'est le sujet de la psychanalyse, celui qui est effet du signifiant, celui qui dit « je » sans savoir ce qu'il dit, ni qui est ce « je » à partir duquel il parle et auquel il croit. C'est le sujet divisé par le signifiant et supposé à la chaîne signifiante qui le constitue. Le sujet barré. Ce qui parle sans le savoir me fait « je » sujet du verbe, dit Lacan, dans ce même séminaire à la fin. Mais il ne suffit pas à me faire être. L'amour ne pourra jamais combler l'être du sujet. Au mieux, il pourra avoir l'idée que dans l'amour, nous ne sommes qu'un. Il pourra arriver à avoir cette idée. Ça, c'est Lacan qui le dit. Le sujet comme tel, en tant qu'il est supposé à une phrase articulée, à quelque chose qui s'ordonne ou peut s'ordonner d'une vie entière. Hein, oui, l'amour vise le sujet comme tel, en tant qu'il est supposé à une phrase articulée. Le sujet est marqué par le signifiant qui supporte son manque. Cette phrase articulée dont Lacan parle ici, c'est la lecture que j'en fais, est la phrase du fantasme, qui articule le sujet barré du signifiant à son être de manque, petit a. Je me suis posé la question de si Lacan évoquait ici plus tôt la série des signifiants devenus signes, chiffrant la jouissance, dont avait parlé Colette Solaire dans son intervention de l'année dernière, La langue et l'ordre langagier. Mais l'objection que je me suis faite est que la série des S1, des signifiants maîtres, ne forme pas une phrase articulée, bien qu'il puisse aussi déterminer, ordonner comme le fantasme, une vie entière. La deuxième objection est que dans la suite, Lacan dit que ce sujet que vise l'amour n'a pas grand-chose à faire avec la jouissance, c'est celui dont le signe est susceptible de provoquer le désir. Or, le désir est le signifié de la chaîne signifiante. Lacan fait équivaloir, dans cette phrase, la phrase articulée, et il dit « à quelque chose ». Ce quelque chose, formulation curieuse lorsque l'on connaît la précision avec laquelle parle Lacan, serait-il, je me soumets à la discussion aussi, l'objet A, manque qui fait désirer, qui apparaît dans la faille de l'articulation signifiante. Le fantasme détermine le sujet à son insu dans tous ses dits et dans ses actes. Il ordonne, donne un sens, une direction à ce qui s'écrit pour un sujet et qui se trouve déterminé à son insu par la phrase inconsciente de son fantasme. Comme dans le cas d'un sujet que je reçois, dont la phrase du fantasme, « être rejeté », ordonne non seulement sa vie amoureuse, mais aussi bien professionnelle. Elle rejette et se fait rejeter. Lors d'une rupture amoureuse, parce que les coordonnées de cette rupture ont touché au plus près son fantasme, elle est arrivée en séance très affectée, disant « je suis ce rejet même ». Moi, c'était pour le temps. Vous allez me dire que Lacan dit « le sujet supposé a une phrase qui s'ordonne d'une vie entière ». Pas qui ordonne. Non pas qui ordonne la vie du sujet. Joue-t-il Lacan de l'équivoque entre donner la direction, ordonner et commander? Je ne sais pas. Car n'est-ce pas la phrase du fantasme qui commande au destin que l'inconscient fait à un sujet? Un sujet comme tel n'a pas grand-chose à faire avec la jouissance. Je continue la lecture. Le sujet visé par l'amour n'aurait pas grand-chose à faire avec la jouissance. Lacan dit pas grand-chose, il ne dit pas du tout. Il n'y a pas de rapport sexuel, mais le sujet jouit des signifiants de son inconscient. Et un homme, une femme, ce sont des signifiants qui ne se situent que d'un discours. Il le dit dans Encore. L'année suivante, dans Les noms du père, il dit « le dire de l'amour fait événement » quand un homme rencontre une femme. Bien que l'amour suspende le sens sexuel, Lacan évoque ici l'amour hétérosexuel qui implique la jouissance sexuelle. Mais par contre, son signe est susceptible de provoquer le désir, là est le ressort de l'amour. La quête dans l'amour ne concerne pas d'emblée la jouissance qui pourrait se rencontrer dans le corps à corps avec l'autre, mais plutôt le désir qui se produit dans la rencontre. Un premier temps. Lacan, dans ce passage, affirme que le ressort de l'amour se trouve dans le désir qu'un sujet éprouve pour un autre sujet. De structure, le désir est désir de l'autre, ce qui se lie aussi, non seulement sur son versant narcissique, désirer le désir de l'autre, c'est aussi désirer l'autre. Ce désir ne se produit que sous certaines conditions qui sont celles où un sujet s'éprouve affecté par le signe d'un autre sujet. La question du signe avait été introduite par Lacan dès sa deuxième année de séminaire en 1954. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Gorog avait commenté cela l'année dernière dans le séminaire ici même. Il cherchait déjà ce qui pourrait être atteint du réel par la parole. Puis après plusieurs années, il y revient en 1973 dans Radiophonie. Le signe n'est pas le signe de quelque chose, mais de la façon dont le sujet se trouve affecté corporellement par l'effet du signifiant. C'est le signifiant qui vire au signe. Ça, c'est Lacan dans Radiophonie. Le signe indique ce qui, des effets de la phrase articulée, affecte un sujet dans son corps en l'inscrivant dans le discours en tant qu'homme ou en tant que femme. Le signe serait ce qui, dans l'amour, représenterait un sujet pour un autre sujet. Le sujet visé par l'amour est celui dont le signe est susceptible de provoquer le désir. C'est par ce cas de plus réel un sujet, question, le signe, que l'amour supplée au non-rapport. Chaque sujet ne rencontre chez un autre que ce qui fait signe pour lui d'un désir pour cet autre, et ce désir touche au corps. Ce qui se rencontre de l'autre dans l'amour, ce qui fait désirer, ce ne sont pas les signifiants qui le constituent, mais les effets sur un sujet de ces signifiants ou de ces éléments de la langue insus par lui. Ce qui fait signe d'un sujet à un autre sujet, pardon, c'est son mode de jouissance, son savoir-faire avec le manque, son inconscient. Le signe est signe d'une altérité. Alors là, je suis tombée sur une question que pose Lacan dans le moment de conclure. Il demande pourquoi le désir passe-t-il à l'amour ? Et il répond, les faits ne permettent pas de l'expliquer. Bon. Le ressort de l'amour. Ressort dit la cause, mais aussi la contingence, le hasard, le pas de sens. La cause de l'amour est le signe, c'est même là tout le drame, nous dit Lacan dans Télévision. Quel est ce drame ? L'amour fait croire que le rapport sexuel va cesser de ne pas s'écrire, mais l'amour n'écrit aucun rapport. L'amour rate la rencontre parce qu'elle ne rencontre que de deux sujets divisés par leur inconscient. Le sujet ne rencontre dans l'amour que la division de l'autre. L'amour vise l'être de l'autre du signifiant, mais ne peut dire ce qu'il aime en l'autre, sauf à mentir, car le signifiant ment. Il ment au sujet et à l'autre tout en disant vrai. L'amour, ça c'est une citation de Lacan dans Les Noms du Père, l'amour c'est demi-dire qui ne se recouvre pas, et c'est ce qui en fait le caractère fatal, c'est la division irrémédiable. En conclusion, la rencontre amoureuse relève de la contingence, charge est laissée au sujet de reconnaître et de se faire les dupes de la disharmonie entre inconscients pour que l'amour, quand il se produit, ne vire pas à la haine. Ce ne sont pas les dits de l'amour qui permettent de dire ni de savoir le pourquoi on aime tel sujet plutôt que tel autre, ni pourquoi on est aimé. L'amour est un mystère. Et je vais vous lire juste un petit extrait d'un dialogue qui date des années 1900, extrait de l'opéra de Puccini, La fille du Far West. Un homme aime une femme qui en aime un autre. Le premier demande à la femme, qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi tu l'aimes tant ? Qu'est-ce qu'il a, pardon, pour que tu l'aimes tant ? Celle-ci répond, et vous, qu'est-ce que vous me trouvez ? Pas de réponse. Un peu après, ce même homme repose la question à un ami. Mais qu'est-ce qu'elle voit ? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce fantoche ? L'ami répond, elle lui trouve forcément quelque chose. Amour, amour, paradis ou enfer, tu es ce que tu es, tous dans ce monde maudit tombent amoureux. Voilà. Maintenant donc, c'est toi, c'est Eliane. Bien. Comment ?
De l'amour à la haine. Lorsque nous abordons le séminaire encore, nous pouvons nous réjouir à l'idée de lire sous la plume de Lacan des choses nouvelles sur l'amour. Je ne sais pas si ça marche.
Oui, c'est pas ce que je pensais.
Ah, pourquoi je parle plus fort ? Mais oui, j'ai réjoui ma pose. Est-ce qu'il est branché celui-là ?
C'est le même avec que j'ai utilisé.
Ah, il est sur
base.
Il est sur base. Ah bon ? Ça marche, ça aide. Bon, alors, ça peut
leur
marcher.
Je peux venir. Si, si, un petit peu.
Ah bon, d'accord, alors on va y croire.
Oui.
On va faire comme avec la pomme, on va y croire. Alors, donc, certes, il nous parle d'amour, de jouissance. Il faut changer de micro. Oui, il y en a trois, c'est parce qu'il manque.
Mais il marchait là. On, on. Ah,
c'est bon,
là.
Ça y est. C'est bon ? Alors, est-ce que ça marche ? Oui, ça a l'air. Donc, je recommence. Donc, lorsque nous abordons le séminaire encore, nous pouvons nous réjouir à l'idée de lire sous la plume de Lacan des choses nouvelles sur l'amour. Certes, il nous parle d'amour, de jouissance, de satisfaction, mais aussi de la haine, moins réjouissante, bien qu'elle soit porteuse d'une jouissance tenace. Et j'avoue que je n'avais jamais pris en compte le fait que Lacan en parle à la dernière page de ce séminaire, où il articule amour et haine dans cette phrase pourtant bien connue, « La vraie amour débouche sur la haine ». En me référant à la première partie de la phrase du passage qu'il nous revient de commenter et que Patricia vient de développer largement, je me suis arrêtée sur « dans l'amour, ce qui est visé, c'est le sujet », sachant que quelque part, quelques pages plus loin, on lit « une haine solide, ça s'adresse à l'être ». D'une part, l'amour vise le sujet, et d'autre part, la haine s'adresse à l'être. Quel est le ressort de ce virage qui permet le passage de l'amour à la haine, où le sujet est visé dans son être de vivant ? Freud nous a enseigné que l'amour est narcissique. Lacan le reprend à son compte dans son début de séminaire. Autrement dit, tout comme Narcisse, le sujet dans l'amour s'assure d'une image aimable, dans tous les cas, une image qui lui convient, grâce à laquelle il peut se reconnaître via le signifiant qui le porte. Cette scène mythique de Narcisse, contemplant désespérément son image, qui l'empêche d'adresser sa demande d'amour à un ou une partenaire, a inspiré Freud dans son titre « Pour introduire le narcissisme » de 1914. Il tente précisément de justifier cliniquement le passage de l'amour narcissique à l'amour du semblable, le partenaire, en mettant à nu la relation d'objet. Il découvrira rapidement qu'une autre scène, dite primitive, hante l'inconscient de ses patients, où apparaît la première représentation du couple. Pensons à l'homo loup. Il est alors confronté aux représentations inconscientes, bien que refoulées du couple sexuel, sur lesquelles s'appuie le fantasme, où le théâtre intérieur de chaque sujet s'inscrit derrière des souvenirs d'écran et quelques autres scènes. Le théâtre et ses comédiens sont aussi ceux qui présentifient des scènes d'amour, et leur succès dépend précisément de ce qui vient y répondre inconsciemment chez le spectateur, d'où l'intérêt pour la littérature et sa mise en scène de ce qui fait faillite dans les affaires d'amour, que ce théâtre soit dit antique ou contemporain. Lacan le soulignera dans Télévision, les acteurs sont capables des plus hauts faits comme on le sait par le théâtre. Le noble, le tragique, le comique, le bouffon, bref, l'éventail de ce qui produit la scène d'où ça s'exhibe, celle qui clive de tout lien social les affaires d'amour, l'éventail donc se réalise à produire les fantasmes dont les êtres de parole subsistent dans ce qu'ils dénomment, on ne sait pourquoi, de la vie. C'est la vie, l'expression consacrée pour signifier qu'il y a eu rupture amoureuse. Autre manière de dénoncer le non-rapport sexuel, celui qui cesse de ne pas s'écrire, qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, impliquant l'exil du sujet qui conduit au ratage des affaires d'amour. L'amour est une demande d'être qui se sustente des signifiants de l'autre. Celui qui se fait dans la relation, cet objet petit a, qui n'est qu'un semblant d'être, parce qu'il semble nous donner le support de l'être. Pour illustrer mon propos, voici un passage de Romain Gary dans Claire de femme. Les problèmes du couple, qu'est-ce que c'est ? Ou bien il y a des problèmes, ou bien il y a couple. C'est, paraît-il, souvent très difficile, douloureux, ça se décolle, ça fait haut, ça fout le camp. Écoute Michel, qu'est-ce que c'est que cette idée de me réveiller au milieu de la nuit pour me parler des problèmes de couple ? Je veux savoir pourquoi on n'a pas de problème de couple, bon sang. Il y a des mauvaises rencontres, c'est tout. À moi aussi, ça m'est arrivé, à toi aussi. Comment veux-tu distinguer le faux du vrai quand on crève de solitude ? On rencontre un type, on essaie de le rendre intéressant, on l'invente complètement, on l'habille de qualité des pieds à la tête, on ferme les yeux pour mieux le voir, il essaie de donner le change, vous aussi. S'il est beau et con, il le trouve intelligent. S'il vous trouve conne, il se sent intelligent. S'il remarque que vous avez les seins qui tombent, il vous trouve de la personnalité. Si vous commencez à sentir que c'est un plouc, vous vous dites qu'il faut l'aider. S'il est un culte, vous en savez assez pour deux. S'il veut faire ça tout le temps, vous vous dites qu'il vous aime. S'il n'est pas très porté là-dessus, vous vous dites que ce n'est pas ce qui compte. S'il est radin, c'est parce qu'il a eu une enfance pauvre. S'il est mifle, vous vous dites qu'il est nature. Et vous continuez ainsi à faire des pieds et des mains pour nier l'évidence, alors que ça crève les yeux. Et c'est ce qu'on appelle les problèmes de couple. Le problème de couple, quand il n'est plus possible de s'inventer l'un l'autre, et alors c'est le chagrin, la rancune, la haine, les débris que l'on essaie de faire tenir ensemble à cause des enfants, ou tout simplement parce qu'on préfère encore être dans la merde que de se retrouver seul. Voilà, dors. Bon, maintenant, je me suis fait tellement peur que je ne vais pas pouvoir dormir. Allume un peu que je te regarde pour me rassurer. Ouf, c'est bien toi. Il y avait certes des limites physiques. Il fallait séparer nos souffles, s'écarter, s'espacer, se lever, se dédoubler. Et c'est toujours autant de perdu. Quand on a deux corps, il vient des moments où l'on est à moitié. Est-ce que je suis envahissante ? Terriblement, lorsque tu n'es pas là. Voilà une définition de l'amour. Outre le fait que Gary nous montre ici combien parler d'amour est en soi une jouissance, ce texte met l'accent sur l'essentiel des enjeux de l'amour, c'est-à-dire donner un plus d'être au sujet là où il en manque. Aimer, c'est vouloir être aimé, c'est une demande d'aide pour se reconnaître dans les dits de l'autre, se nourrir de ses signifiants, parce que l'être, nous dit Lacan, on ne le fait que supposer à certains mots. C'est aussi le compléter à l'occasion pour ajuster son être au plus près de celui du partenaire pour assurer son existence. Au fond, dans l'amour, on pourrait dire que, tout comme l'analyste ou le comédien, il y a un partenaire qui y répond, qui fait illusion. Mais à la différence de l'analyste et du comédien, il s'illusionne à vouloir maintenir l'illusion pour lui-même, jeu qui se termine par « ce n'était pas elle, ce n'était pas lui ». C'est la version narcissique de l'amour menteur qui maintient les idéaux du sujet, avec ce fantasme de fusion, de ne faire qu'un avec l'autre, viser l'unarité pour éviter la solitude inhérente à l'inconscient, indépendamment de sa fonction de suppléance au non-rapport sexuel. L'amour n'est que le désir d'être un, nous dit Lacan. Et à la fin d'encore, l'abord de l'être, n'est-ce pas là que réside l'extrême de l'amour, la vraie amour ? Mais précisément, la vraie amour bascule sur la haine, se passant le flambeau de l'une à l'autre comme un relais d'impossible. En effet, ce qui fait le drame de l'amour, c'est son impossible à rejoindre ce rapport d'unarité ou d'harmonie qu'il visait, faisant d'autant plus émerger son ratage quand il se heurte au noyau réel du narcissisme de l'être de l'autre. Si l'amour est la reconnaissance de deux savoirs inconscients face à leur destin de solitude, d'exil du rapport sexuel, ils ne cessent pas de vouloir faire un avec l'autre, en dépit de leur être de jouissance propre à chaque partenaire. Quant à la haine, si comme Lacan le souligne, elle ne relève pas du plan dont s'articule la prise du savoir inconscient, elle vise et dénonce, souvent par l'insulte, ce point de jouissance de l'être qui le caractérise dans sa manière d'être au monde, dans son discours, sans rien vouloir en savoir de plus. C'est un point d'impossible, d'irréversible, de non-retour à la subjectivité de l'autre, parce que le réel destitue le sujet et que la haine vise ce point de réel du sujet. Lacan écrit « Rien ne concentre plus de haine que se dire où se situe l'existence, c'est-à-dire son existence de jouissance, son symptôme avec sa jouissance autiste. La haine vise ce réel dans l'autre et n'aboutit qu'à sa destruction, là où l'amour tente de composer, au-delà de cette unarité de jouissance. Mais n'est-ce pas une autre manière de reprendre ce que Freud soulignait déjà dans son article « Pulsion et destin des pulsions » de 1915 ? Il écrivait « La haine en tant que relation d'objet est plus ancienne que l'amour. Elle provient du refus originaire que le moi narcissique oppose au monde extérieur, prodiguant les excitations. » En tant que manifestation de la réaction de déplaisir suscitée par des objets, elle demeure toujours en relation intime avec les pulsions de conservation du moi. Et c'est bien ce qui la rend tenace et irréversible, visant la destructivité de l'autre sans aucune alternative possible. Je vous renvoie à un texte contemporain de Stéphanie Marché qui s'intitule « Corps étranger » et qui a été mis en scène récemment à Paris, qui effectivement parlait de la haine. Et c'était très bien mis en scène. De ce fait, la haine, bien que lucide, s'avère délétère pour la civilisation via les institutions, car elle contamine de manière larvée le discours commun le plus politiquement correct, érigeant en bouc émissaire toute jouissance perçue, étrangère à la sienne, ce qui incite à la ségrégation et au racisme dont Freud et Lacan avaient su nous avertir. En s'infiltrant dans les discours les plus communs, laissant libre cours à la banalité du mal, comme le dénonçait Hannah Arendt, la haine suscite des unarités de jouissance qui justifie la constitution de groupuscules extrémistes dont les objectifs ne sont que violence et destruction. Tout groupe se heurte à ce réel et devient tributaire de ce mécanisme d'exclusion et de radicalisation quant à une jouissance supposée autre, différente et plus avantageuse que la sienne. Enfin, pour conclure, sur une note optimiste, à l'heure où je terminais cet écrit, j'apprenais la mort d'Alain Resnais, comme vous tous, cet extraordinaire réalisateur de cinéma. À cette occasion, était diffusée l'une de ses dernières interviews, ainsi que celle qui l'a accompagnée dans son œuvre et dans sa vie. Signe que l'amour est possible, sous réserve que, comme Gary le souligne, on puisse encore s'inventer l'un l'autre. Signe d'une reconnaissance énigmatique de deux savoirs inconscients, pari qui n'est peut-être pas donné à tous les couples. Merci.
Merci Eliane. Je vais donc passer la parole à Carlos Guevara.
Donc, j'ai intitulé mon intervention « De la visée de l'amour ». Et pour commencer, j'ai choisi une petite phrase de Rilke, que j'aime bien, et qui dit « L'amour, c'est la rencontre des deux solitudes voisines ». C'est dans les lettres d'un jeune poète. Et pour mon petit commentaire de ce soir, je voudrais revenir au début du séminaire encore, tout simplement pour rappeler « La visée de Lacan ». Ainsi, nous dit-il Lacan, je pense que c'est à la première page du séminaire encore, il dit « Je vais d'abord vous supposer au lit, un lit de plein emploi à deux. » Une manière donc d'annoncer le programme du séminaire et de nous rappeler une fois de plus que la réalité de l'inconscient est sexuelle. Ça peut paraître anodin, sauf à tenir compte que cet oubli s'est déjà produit dans l'histoire de la psychanalyse. C'est intéressant de voir comment ce qui fait le cœur de la réalité inconsciente puisse être escamoté par des psychanalystes. On n'est jamais à l'abri. C'est d'autant plus déconcertant si on tient compte du fait que la clinique ordinaire du psychanalyste, celle des névrosés avant tout, ne parle que de ça, de tous les devoirs, d'impasse, des tracas, des ratages des sujets avec leurs désirs, avec leur corps, avec leur affect qui s'embrouille. La visée première du séminaire est de nous rappeler ce qui nous intéresse comme analystes et ce qui conduit à l'étreinte des corps avec tout ce qu'elle comporte de ratage. Nous savons déjà que la question de la jouissance tiendra le rôle central du séminaire, Mais ce qui est un peu plus énigmatique est la référence que Lacan fait, que Lacan fait à l'amour dans ses séminaires. Il faut souligner que dans son parcours, il s'est beaucoup occupé de la question de l'amour pendant au moins la décennie qui va de son premier séminaire à celui du transfert, des années 50 aux années 60. Il s'attellera à commenter la conception freudienne sur l'amour, la dimension narcissiste de l'amour, et à partir des, disons, des formules comme la relation d'objet, les choix d'objet. Et c'est en effet dans les années 50 où Lacan commence son enseignement dans ce langage qui dit que la relation d'amour du sujet avec l'autre on s'est référé à cette œuvre centrale de Freud en fait pour justement parler de cette relation d'amour à partir du texte de Freud pour introduire le narcissisme. On pouvait dire alors à partir de ces tests de Freud, que l'homme n'a que deux objets primitifs, lui-même et la femme qui s'occupe de lui. Ce qui ne lui laisse que quatre types de fixation. Les trois premières sont tournées vers lui-même, c'est-à-dire on aime ce qu'on est soi-même, ce qu'on a été, ce qu'on voudrait être. Les quatrièmes types de choix concernent les choix d'objets extérieurs. On aime la personne qui a été une partie de son propre moi. C'est l'amour de type narcissique. Ou on aime la femme qui nourrit et l'homme qui protège. C'est l'amour par étaillage, dit aussi anaclitique, mais qui reste en réalité encore une des formes de l'amour narcissique. Il y a aussi les moments féconds du séminaire du transfert, qu'on a commenté un peu lors des premières séances du séminaire cette année, où Lacan s'efforce de distinguer le rapport de l'amour et du désir, où il met en exergue la fonction désirante de l'amour, où la notion de la faille du sujet, aussi nommée les manques à être, qui constitue la même source du désir et de l'amour, ces derniers étant une suppléance, un voile pour couvrir cette béance. Vient ensuite une autre décennie, celle qui va du séminaire Le Transfert jusqu'au séminaire qui précède encore, dans laquelle il va approfondir les champs du désir. La question de l'amour passe à un deuxième plan. Ainsi, Lacan produira son objet petit a, élaborera la logique du fantasme où s'oriente le désir, il construira le concept de jouissance. Les séminaires encore marquent un point de renouveau sur la question de l'amour. On peut dire qu'il renaît de ses cendres dans l'œuvre de Lacan. Dès la première leçon du séminaire, Lacan part d'un constat. L'analyse démontre que l'amour dans son essence est narcissique et dénonce que la substance du prétendu objectal, Bharatan, est en fait ce qui donne le désir et reste, à savoir sa cause et le soutien de son insatisfaction, voire de son impossibilité. L'amour est impuissant, quoi qu'il soit réciproque, parce qu'il ignore qu'il n'est que le désir d'être un, ce qui nous conduit à l'impossible d'établir la relation de sexe. On peut noter dans cette formulation la réactualisation de ce qu'il avait déjà avancé dès 1954 dans le séminaire sur les écrits techniques de Freud. Je cite dans le séminaire de 1954. Il dit « L'amour se distingue du désir comme la relation limite qui s'établit de tout organisme à l'objet qui le satisfait. Car s'aviser n'est pas de satisfaction, mais d'être. C'est pourquoi on ne peut parler d'amour que là où la relation symbolique existe comme telle. » Dans ces années, Lacan va s'efforcer de produire une formulation de l'amour qui ne relève pas seulement de l'imaginaire. C'est pourquoi il introduira la notion d'amour comme au pacte symbolique. Et ensuite, une autre alternative à l'amour-passion, c'est de l'amour comme au don actif. Je les cite encore, il dit « Apprenez maintenant à distinguer l'amour comme passion imaginaire du don actif qu'il constitue sur le plan symbolique. L'amour, l'amour de celui qui désire être aimé, est essentiellement une tentative de capturer l'autre dans soi-même comme objet. Le désir d'être aimé, c'est le désir que l'objet aimant soit pris comme tel, englué, asservi dans la particularité absolue de soi-même comme objet. Celui qui respire à être aimé se satisfait fort peu, c'est bien connu, d'être aimé pour son bien. Son exigence, c'est d'être aimé aussi loin que peut aller la complète subversion du sujet dans une particularité, et dans ce que cette particularité peut avoir de plus opaque, de plus impérissable. On peut être aimé pour tout, pas seulement pour son moi, comme le dit Descartes, mais pour la couleur de ses cheveux, pour ses manies, pour ses causes de cela même. Aimer, c'est aimer un être au-delà de ce qu'il apparaît être. Les dons actifs de l'amour visent l'autre, non pas dans sa spécificité, mais dans son être. Et il rajoute un peu plus loin, dans le même séminaire, « L'amour, non plus comme passion, mais comme don actif, vise toujours, au-delà de la captivation imaginaire, l'être du sujet aimé, sa particularité. C'est pourquoi il peut en accepter très loin les faiblesses et les détours, il peut même en admettre les erreurs, mais il y a un point où il s'arrête, un point qui nécessite que de l'être. Quand l'être aimé va trop loin dans la trahison de lui-même et persévère dans la tromperie de soi, l'amour ne suit plus. Il est intéressant de souligner que c'est aussi dans ce séminaire de 54 que Lacan propose dans l'amour comme une des voies de réalisation de l'être, mais aussi deux autres voies, celle de la haine et l'ignorance. Ça, c'est une thèse qui est déjà des 54, en fait, et qui va rester comme une invariable, en fait, dans la théorie de Lacan. Cette triade, dans son rapport à l'être, restera invariable. Dans les séminaires encore, il va les nommer les passions de l'être, justement. En réalisant les séminaires 1, j'ai pu constater que Lacan aborde les mêmes points qu'on voit apparaître dans le séminaire encore, en ce qui concerne l'amour. Dès lors, on peut essayer de distinguer ce qui reste de son élaboration première de ce qui change. Dans le sens de ce qui change, on a déjà pointé la référence à l'objet petit a, ce reste qui fait tenir l'image. De même, la référence à la jouissance, conception absente dans l'élaboration des 54. Nous pouvons, grâce à la lecture des premiers chapitres du séminaire, avancer d'autres références qui feront que la conception de l'amour et son articulation à l'être seront remaniées. Merci. Sans être exhaustif, je me contenterai de souligner quelques points. En ce qui concerne l'être et la jouissance, Lacan nous montre à la fin du premier chapitre d'Encore l'incompatibilité d'une certaine conception de l'être et la réalité de la jouissance sexuelle. Je le cite. Mais l'être, c'est la jouissance du corps comme tel, c'est-à-dire comme asexué, puisque ce qu'on appelle la jouissance sexuelle est marqué, dominé par l'impossibilité d'établir comme tel, nulle part dans l'énonçable, c'est seul un qui nous intéresse, l'un de la relation rapport sexuel. L'impossibilité du rapport sexuel et la jouissance, ainsi définie dans une distribution dont la frontière, ça c'est mon commentaire, dont la frontière est située dans sa référence à la jouissance phallique, référence qui permet de situer la jouissance non prise dans ce registre, jouissance féminine, les patous de la femme, conduit inévitablement à concevoir la dimension de l'être, c'est-à-dire de l'un, différemment. Je cite Lacan, il dit « Des femmes, à partir du moment où il y a les noms, on peut en faire une liste et les compter. » C'est bien, c'est qu'on peut les prendre une par une, c'est ce qui est l'essentiel. Et c'est tout autre chose que l'un de la fusion universelle. Dans le 12e chapitre, Lacan précise la notion du signifiant comme cause de la jouissance, qu'on a largement commenté l'année dernière. Et on voit bien que c'est un pas nécessaire pour établir que les rapports entre les sexes sont réglés par le discours. Ainsi, il note dans le 3e chapitre du séminaire que, je le cite, les mots référence en location ne peut se situer que de ce qui constitue comme lien de discours. Les signifiants comme tels ne se réfèrent à rien si ce n'est qu'un discours, c'est-à-dire à un mode de fonctionnement, à une utilisation du langage comme lien. Le traitement de la question de l'être glisse alors d'une conception universelle vers une conception qui désigne les lieux d'un être parlant dans un lien de discours, et on s'intéresse dès lors à la question de savoir qu'est-ce que c'est que d'être un homme, que d'être une femme. Et Lacan nous dit, un homme, ce n'est rien d'autre qu'un signifiant. Une femme cherche un homme au titre du signifiant. Un homme cherche une femme au titre de ce qui nécessite que du discours, puisque si ce que j'avance est vrai, à savoir que la femme n'est pas toute, il y a toujours quelque chose qui chez elle échappe au discours. Dans le chapitre 4 du séminaire, où se trouvent les paragraphes qui nous concernent ce soir, Lacan s'attelle à expliquer cette formule. La jouissance n'est pas le signe de l'amour. Et pour cela, alors qu'il a déjà beaucoup avancé sur le concept de jouissance et son articulation au signifiant, il va nous proposer une articulation entre l'amour et le signifiant. Il nous rappelle alors que jadis, je le cite, « J'ai pu dire également que l'amour vise l'être, à savoir ce qui dans le langage se dérobe le plus. » Il répondra donc encore cette question de l'être, encore une fois, pour souligner un leurre qui tende à toujours nous ramener vers une conception universelle, voire éternelle de l'être. En quelque sorte, son effort est celui de pouvoir sortir cette question du traitement philosophique. Et pour cela, il nous rappelle que le discours analytique met en évidence que l'opération du langage nous impose d'un côté l'être et de l'autre nous oblige à admettre que de l'être, nous n'avons jamais rien. Il faut distinguer qu'effectivement, nous n'obtenons jamais une signification satisfaisante de l'être, mais qu'en revanche, les signifiants dans sa fonction de pure référence imposent cette dimension d'être. C'est pourquoi Lacan propose de les traiter en tant que par-être, à distinguer du par-être. Au fil du chapitre, Lacan pose les questions qui montrent l'insuffisance de l'ancienne formule selon laquelle l'amour vise l'être, à cause précisément du leurre déjà indiqué. Ainsi, il résulte nécessaire d'interroger la conception purement narcissiste, imaginaire de l'amour, puisqu'elle ne répond pas du fait qu'il peut y avoir d'amour pour un autre. On voit aussi qu'en ce qui concerne la question de l'être, la seule réponse du manque à être résulte insuffisante pour expliquer au nom de quoi ces sentiments qu'on appelle amour peut conduire un être parlant à établir un lien avec un autre. Lacan, avec l'aide de la théorie des ensembles, propose une lecture de l'un différente de l'un de la totalité. À sa place, il s'agit de l'un comme élément d'une série, des uns d'un ensemble dont chacun est singulier et dont les critères d'appartenance à cet ensemble est le seul fait de compter en tant que un. C'est ramener, réduire la question de l'être à sa référence, à sa dimension, pardon, purement signifiante. On peut dire même des chiffres ou bien des lettres. C'est la raison pour laquelle, à la fin de ce chapitre, il va proposer une nouvelle formulation concernant la visée de l'amour. Ainsi, il vise l'être, mais en tant que signifiant qui produit cet effet qu'on appelle sujet. On peut dire aussi que l'amour vise les sujets à partir de ce que du sujet fait signe, c'est-à-dire comme pur effet du fonctionnement signifiant. On voit à quel point Lacan pousse l'élaboration pour aller au-delà de la conception de l'amour comme illusion et rendre compte de l'opération de l'amour qui permet la rencontre. Il s'est produit un glissement d'une conception de ce qu'est l'amour n'est pas à une conception dont il s'agit de comprendre ce qu'il est. Ainsi, il réactualise cette fonction déjà évoquée dans le séminaire du transfert, celle de la fonction désirante de l'amour. Grâce au fait que l'amour vise le sujet, il fait intervenir le signe que provoquant les désirs conduit les corps à l'étreinte, à la rencontre dans le lit. Voilà, je vous remercie.